France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. Il la considérait comme l'unique pont aérien qui le relie à la Russie et elle le voyait comme son Virgile parmi les personnalités et les figures de l'art contemporain. Les quelques 130 lettres que se sont échangées la pianiste Maria Yudina et le mécène Pierre Souchinski constituent un témoignage irremplaçable sur la vie musicale, culturelle et intellectuelle des années 1960 de part et d'autre du Rideau de Fer. Elles sont traduites pour la première fois en français par mon invité Jean-Pierre Collot qui vient nous les présenter. Maria Yudina Pierre Souchinski, correspondant ses documents 1959-1970 chez Contrechamp Édition. Une danse sur un rythme bulgare, extrait du sixième livre des Microcosmos de Béla Bartok. Bonjour Jean-Pierre Collot.
Bonjour.
Vous êtes donc l'auteur de ce travail éditorial magnifique sur cette correspondance entre Maria Yudina et Pierre Souchinski. Alors peut-être pour nos auditeurs, resituer ces deux personnages. Bon, Maria Yudina, les auditeurs de France Musique la connaissent certainement, pianiste russe, née en 1899, morte en 1970. Et Pierre Souchinski, j'ai dit mécène, mais c'est peut-être un peu limité comme définition.
Oui, effectivement, il est aussi un mécène sans argent, comme dit de lui Franck Langlois, dans une biographie qu'il lui a consacrée, mais il est aussi philosophe, musicien. En tant que musicien, pianiste et chanteur, en tant que pianiste héritier d'une école de piano puisqu'il est l'élève en privé de Félix Blumenfeld, lui-même professeur de Vladimir Horowitz, mais aussi de Maria Yudina. C'est déjà un maillon qui les relie.
Parce que donc lui est russe, c'est un russe émigré.
C'est lui c'est un russe qui émigre vers 1920.
Issu d'une famille aisée.
Issu d'une famille aisée, noble, mais pas du tout, noble ukraino-polonaise, mais en fait, pas du tout opposé à la révolution. Il est aussi donc le fondateur, avec des gens comme Trubetskoy et Savitsky, de l'eurasisme, qui était un mouvement extrêmement intéressant, qui voyait dans ce qu'était à l'époque la sixième partie du monde, l'URSS, une façon de relancer la culture, mais il croyait en la révolution comme Trubetskoy, comme les autres, mais à condition que cette révolution soit accompagnée d'un certain renouveau spirituel, ce qui évidemment ils ont dû déchanter très vite.
Ouais.
Mais c'est aussi un philosophe. Et c'est très important de le souligner.
Et quelqu'un qui a eu un rôle assez important dans la vie musicale en France, puisque même s'il était un peu dans l'ombre, mais il a côtoyé quand même tous les grands musiciens et compositeurs. On pense évidemment à Pierre Boulez notamment.
Oui, mais pas seulement en France en fait.
Bien sûr.
Il y a chez lui, c'est quelqu'un qui a des liens très étroits à la fois avec les compositeurs, à la fois avec les écrivains, puisqu'il est proche de René Char, très proche d'Henri Michaud. Mmh. L'éminence grise de Stockhausen, de Pierre Boulez, bien sûr, de Xenakis, de gens comme ça, mais aussi plutôt, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une clairvoyance extraordinaire pour ce qui est de l'interprétation. C'est quelqu'un qui a eu de très longues conversations avec Furtwängler à Berlin, puisque ça a été une de ses étapes dans l'immigration, avec Furtwängler, avec Charles Munch, qu'il conseillait pour les programmes, mais avec aussi de nombreux pianistes comme Geza Handa, mm-hmm. comme Gérard Frémy également, on va le voir, comme Georges Plodermacher, comme Claude Elfer également.
Ouais. Mm-hmm. Jean-Pierre Collot, alors cette correspondance entre Yudina et Suchinski, où est-elle?
Alors, excellente question. Principalement, elle est, pour ce qui est des lettres envoyées à Maria Yudina, elle est à ce qu'on peut encore appeler la bibliothèque Lénine, c'est-à-dire la Bibliothèque nationale de Russie. Mais il y a d'autres archives également à Moscou. Oui. Et pour ce qui est des destinataires, enfin des correspondants, eh bien c'est un petit peu partout.
Oui.
Il y a par exemple des lettres à la Fondation Zahrer, il y a des lettres dans les archives personnelles. Donc bon, il y a beaucoup de lettres qui ont été éditées. La plupart des lettres ont été éditées en Russie. C'est d'ailleurs c'est un événement considérable entre jusqu'à 2010 environ. Pour donner une idée, c'est aussi une façon de donner le profil complètement atypique de cette pianiste, de dire que c'est une pianiste dont ont été édités 7 volumes de correspondance en Russie. 7 gros volumes de correspondance des volumes des textes qu'elle a écrits elle-même, 2 volumes plus les biographies, etc. Donc on a une bibliographie d'à peu près 14 volumes actuellement en russe. À ma connaissance, les lettres n'ont pas été traduites hors de Russie, à part quelques mmh. lettres, bien sûr, qu'on trouve dans des ouvrages qui sont consacrés à Prokofiev ou à Shostakovich ou à Suchinski. Mais dans la grande majorité, c'est une première en français.
D'accord. Et alors, pour mener à bien votre entreprise donc de traduction de cette correspondance, et également, il y a d'autres lettres que Yudina adresse à d'autres artistes ou penseurs de son temps, sur quelle source vous êtes-vous basé alors, Jean-Paul Collot ?
Alors, principalement sur les volumes de la correspondance éditée.
D'accord.
Et en fait, pas seulement sur les 4 volumes qui concernent la période 1959-1970, date de sa mort, qui sont celles de la correspondance avec Suchinski. Mais en fait, le but caché et réalisé de cette édition, c'était de donner un panorama le plus complet possible de toutes les relations de cette immense interprète russe avec l'Occident. C'est-à-dire que on trouvera toutes les lettres connues avec les correspondants par-delà le rideau de fer.
La vache, extrait de Mana d'André Jolivet, sous les doigts de Maria Yudina. Avant qu'on détaille, enfin, qu'on survole plus exactement cette correspondance, Jean-Pierre Collet, vous êtes pianiste professionnel. Et vous, comme pianiste, je voudrais savoir comment vous définiriez l'art de Maria Yudina. Vous l'expliquez en introduction, elle partageait avec Suchinski une sorte de refus de la sentimentalité, mais encore... Comme interprète.
Il y a une chose qui me frappe énormément chez elle, c'est et que je n'ai pas dit forcément dans l'intro.
Profitez du micro de France
voilà,
Musique pour le dire.
Donc je parle d'architecture, je parle, mais je parle de lumière, une lumière éblouissante quand on entend les variations de Goldberg par exemple et beaucoup d'autres œuvres. C'est surtout ce qui frappe, c'est l'immédiateté. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune distance entre le message et l'auditeur. On a l'impression même d'une chose qui vous arrive de plein fouet. On a l'impression d'un choc, d'un heurt. Et très curieusement, mais du coup pas du tout par hasard, c'est quelque chose qu'elle théorise même, qu'elle évoque dans un texte magnifique que je voulais absolument traduire et qui fait partie des quelques textes de Yudina qui complètent cette correspondance. Ce sont ses réflexions sur l'interprétation musicale. Et de façon emblématique... elle cite comme ses grands maîtres des gens qui ne sont pas du tout des musiciens. Elle cite des philosophes, elle cite des graveurs, des artistes, même un psychologue, Vygotsky, très connu pour une psychologie de l'art, marxiste d'ailleurs. Mais surtout, elle cite quelqu'un comme Pavel Florensky. Et il est important de citer ce nom parce que bon, c'est une personne absolument géniale, à la fois théologien, physicien, mathématicien, très bon musicien, qui est un petit peu présent partout, qui curieusement va aussi électrifier la Russie à la demande de... Bon, ça m'échappe maintenant, mais c'est quelqu'un de très important qui est l'auteur en particulier de la perspective inversée. Et la perspective inversée, c'est quoi ? C'est une façon de comprendre l'art, de mêler quand même quelque part un certain subjectivisme avec une recherche de la vérité. Et c'est une chose que l'on a, que l'on ressent tout le temps à l'écoute d'un enregistrement de Yudina. C'est-à-dire que ce qu'évoque Florensky avec la perspective inversée, il est anti-renaissance, en fait, anti-perspective de celle qu'ont développée les peintres de la Renaissance. Pour lui, ce qui est important, c'est à chaque fois une dimension directe avec tel objet. C'est ce qu'on entend chez elle.
Une immédiateté, dites-vous, Jean-Pierre Collot, malgré des conditions techniques souvent précaires. C'est vrai que les prises de son ne sont pas toujours exceptionnelles. Et je tiens d'ailleurs à préciser qu'avec ce livre, sont joints deux CD de disques compacts d'enregistrement de Maria Yudina. Vous avez parlé tout à l'heure de spiritualité. Il y a aussi une dimension quand même religieuse dans la personnalité de Yudina. Elle s'est convertie à la religion orthodoxe en 1919 et il y a beaucoup de photos sur lesquelles on la voit arborer fièrement sa croix. On le sait que ça lui a valu quand même une certaine mise au banc du régime soviétique.
Totalement. Ouais. Et en fait, mais c'est aussi quelque chose qu'elle n'a pas craint de faire et elle en a subi les conséquences, parfois jusqu'à... Enfin bon, c'est une femme qui a énormément souffert, donc qui non seulement a été chassée de deux conservatoires importants, Petrograd, ensuite Leningrad, puis Moscou, puis l'Institut Gnessine, mais surtout qui a été privée de concerts pendant trois ans, une période où donc elle ne peut plus gagner sa vie, seulement par des enregistrements. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, ces enregistrements, il y a des enregistrements extrêmement rares, rarissimes, sous la couverture, pour vous citer, dans les deux rabats de la couverture, donc des choses qui sont absentes de tous les coffrets qui sont parus, même certains des choses que même les Russes ne connaissent pas. En particulier, on peut entendre la voix de Yudina, et en particulier, on peut entendre, ça c'est une chose absolument exceptionnelle parce qu'on il nous est donné d'entendre cette catharsis qu'évoque nombre d'auditeurs qui l'ont entendu. Ce sont les Krasserianas de Schumann qui n'existent dans aucun coffret paru en Occident.
Maria Yudina interprétait un extrait des Fantaisies Stücke opus 12 de Robert Schumann. Jean-Pierre Collot, venons donc à cette correspondance entre Maria Yudina et Pierre Soufchinski. Quels étaient le terrain favori de leurs échanges? La vie culturelle, je l'ai dit un peu en introduction, bon, on parle de certains concerts, de certains penseurs, de certaines idées. Est-ce qu'il y a deux ou trois lignes directrices comme ça qui se dégagent de cette correspondance?
C'est extrêmement vaste.
Oui.
Absolument, puisqu'on parle beaucoup de musique, beaucoup d'interprétations, beaucoup de créations musicales, mais on parle aussi littérature, déjà parce que, s'ils se sont rencontrés, c'est grâce à l'intermédiaire, grâce à l'entremise de Boris Pasternak. Donc on parle beaucoup de poètes, on parle beaucoup de Zabolotsky, qui est un poète très important en Russie. Elle parle beaucoup de Khlebnikov, qui est c'est quelqu'un qui a eu un poète un petit peu le Rimbaud russe qui fait exploser la langue russe de l'intérieur, en fait. Quelqu'un d'extraordinaire. Lui est plus réservé sur Khlebnikov. Voilà, on parle même de gens comme Mandelstam, Tsvetaeva, voilà.
Deux personnalités différentes quand même. On voit elle est plutôt extravertie et lui un peu plus réservé, quand même dans leurs échanges, quand même dans leurs écrits.
Tout à fait, mais curieusement, là aussi, sur ce plan-là aussi, ils vont aller l'un vers l'autre, puisque Suchinski va finir par se livrer beaucoup plus. Voilà, bien sûr, elle a un tempérament, elle se livre totalement. D'ailleurs, ses lettres sont des espèces de sont écrites dans un style magnifique, dans un style. J'ai eu un énorme plaisir à traduire cette espèce de fleuve coloré, très bien ponctué, de façon très inattendue, même pour les Russes, avec énormément de points, de tirés extrêmement longs. Il y a quelque chose de très déclamatoire et de très musical aussi chez Yudina. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si elle lisait de la poésie entre deux morceaux dans ses concerts. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu aussi d'être privée de concert quand elle lisait des poètes interdits comme justement Zabolotsky ou Pasternak. Mais on ressent ça dans sa prose, des attentes. On sent aussi qu'elle a fréquenté des chœurs orthodoxes et qu'elle a étudié les kriouki, comme elle dit, l'équivalent des neumes, donc l'équivalent russe, le chant znameni, l'équivalent du chant grégorien, de notre chant grégorien. Et donc il y a cette espèce de rythme, on le retrouve aussi dans ses lettres.
Ouais. Et Jean-Pierre Collot, aussi bien Maria Yudina que Pierre Suchinski étaient à l'écoute de la modernité de leur temps, sauf que de part et d'autre du rideau de fer, la modernité n'était pas exactement la même.
Non, mais il faut bien admettre que Yudina accepte quand même pratiquement tout ce que lui envoie Suchinski. Mais bien sûr, il y a des atomes plus ou moins crochus avec les compositeurs. Suchinski la met par exemple en relation avec Karlheinz Stockhausen, et c'est une magnifique rencontre. Malheureusement, on n'a pas retrouvé toutes les lettres qu'ils se sont échangées, mais on a deux témoignages de Stockhausen, hormis les lettres qu'il lui a envoyées sur Yudina. On a des lettres de Yudina à Stockhausen, et on sent vraiment que tout de suite, ils parlent la même langue.
La fin du concerto pour piano et orchestre à vent d'Igor Stravinsky, Maria Yudina au piano. L'orchestre de la radio du RSS est dirigé par Gennady Rozhestvensky. Jean-Pierre Collot, Stravinsky, c'est une figure qui réunit Yudina et Souchinski.
Absolument. Souchinski connaît Stravinsky depuis longtemps. Bon, leurs relations ont connu quelques éclipses, mais lorsque commence la correspondance, Souchinski est un intime de Stravinsky, quelqu'un qui comprend cette œuvre de l'intérieur. Souchinski a été ravi également que Stravinsky se tourne vers la musique sérielle et adopte ce langage. Yudina a une énorme admiration pour Stravinsky. Elle connaît relativement mal son œuvre parce que tout simplement l'œuvre de Stravinsky était interdite pendant très très longtemps. Et par exemple, l'une des premières choses que dans sa première lettre à Souchinski demande Yudina, elle demande que Souchinski lui envoie les partitions de la sonate pour piano et du concerto pour piano. C'est nous, ça nous semble absolument dingue, mais c'est un fait. Ouais. Elle ne connaissait pas la plupart des œuvres de Stravinsky.
Ah oui, le rapport à l'accès à cette musique qui était effectivement connue en Occident, je pense aussi à celle de l'école de Vienne, par exemple.
Tout à fait, absolument. Elle a créé, elle, le premier concerto de Krenek, et elle a joué Schoenberg, mais bon, c'était très vite. Elle a fait ça encore au début des années 20, lorsque c'était encore possible, mais très vite, lorsque le pouvoir soviétique et Lunacharsky ont serré la vis, ça n'était plus possible.
Parce qu'on connaît aussi son enregistrement de la sonate de Berg.
Oui, mais ça, tout ça, c'est des enregistrements très tardifs, des années 60. Absolument. Donc, elle enregistre, dès qu'elle le peut, énormément Stravinsky. Il y a des choses qui sont fabuleuses. Le concerto, ça, c'est aussi une chose qui est importante à la fois pour Souchinski que pour Yudina. Souchinski disant que, par exemple, de façon qui peut nous surprendre un petit peu maintenant, mais parlant du mouvement lent du concerto de Stravinsky. Souchinski écrit à Yudina dans une de ses lettres, c'est l'une des choses les plus dramatiques qu'Igor Stravinsky ait jamais écrite. Quant à Yudina, non seulement elle joue magnifiquement des choses et enregistre, elle enregistre pratiquement tout ce qu'elle monte de Stravinsky. En particulier, il y a un très bel enregistrement du concerto pour deux pianos, deux pianos soli. De Stravinsky, mais elle enregistre aussi par exemple le Septuor, œuvre très intéressante puisque c'est une œuvre de transition justement dont le dernier mouvement fait appel déjà à la technique sérielle. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre Collot. Je rappelle le titre de votre passionnant travail, Maria Yudina Pierre Souchinski, correspondances et documents, qui vient d'être publié aux éditions Contre-Champ. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Philippe Mercher, attaché de production Annie Comier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, nous serons en compagnie de Paul Ducas. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.